en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Yann Arthus Bertrand a la particularité d'aimer le plancher des vaches et la terre vue du ciel. Son nom est associé au titre de l'ouvrage qu'il a fait connaître dans le monde entier, « La terre vue du ciel », régulièrement édité. Nous sommes nombreux à avoir dans le coin de notre mémoire visuelle l'une de ses photographies. Le cœur de veau, ce cœur végétal dans la mangrove de Nouvelle-Calédonie, les lions du Kenya, les ibis rouges du Venezuela, un iceberg de la Terre Adélie avec en son sommet le blouson rouge du glaciologue qui l'accompagnait. Parmi les 70 ouvrages qu'il a publiés, son travail de photographe s'apparente aussi à un long travail d'enquête sur l'état du monde. Dans ses séries de longue haleine, il s'interroge sur le lien de l'homme à l'animal. La liste des animaux est longue, citons parmi d'autres les lions, les chevaux, les bestiaux du patrimoine français. Son travail de naturaliste et d'artiste nous rappelle combien la beauté de la nature s'impose à notre regard. Avec ses photographies prises d'hélicoptères, d'avions, de montgolfières ou sur le plancher des vaches, beaucoup d'entre nous ont découvert des couleurs insoupçonnées de la terre, des paysages grandioses et la fragilité des écosystèmes lors d'expositions grand public. Les photographies témoignent. Elles disent l'état du monde. Son œuvre s'inscrit dans un engagement profond et ancien pour l'écologie. En 2005, il a créé l'association Good Planet pour rendre chacun acteur du développement durable de la planète, sensibiliser, mobiliser pour agir sur les questions d'environnement. Exposition, fondation, site internet, les projets sont nombreux. Retrouvons-le dans les bureaux de son agence Altitude et de son association Good Planet quelques jours avant son installation comme membre de l'Académie des Beaux-Arts sous la coupole. Yann Arthus Bertrand, merci de nous accueillir dans votre agence.
Dans ma cabane ?
Dans votre cabane ?
Dans le bois de Boulogne.
D'où est venue cette idée de construire une cabane en dehors de votre agence ?
Alors, je vais vous dire, la vraie vérité, je ne sais pas s'il y a des vraies et des fausses vérités, c'est que je n'avais pas permis de construire pour agrandir mes bureaux. Je vais me faire une cabane sur pilotis, toute simple. Non, mais je suis resté un enfant et j'ai une cabane dans un arbre et j'adore construire des cabanes. Voilà, donc à 61, j'ai 61, 62, je me souviens plus. J'avais envie de me faire un petit bureau dans la forêt et donc j'ai demandé, c'est les gens des Beaux-Arts, des artistes des Beaux-Arts qui m'ont fait cette cabane. Donc ça a permis d'aider des artistes des Beaux-Arts et d'avoir un bureau magnifique.
Et puis d'accueillir vos invités dans un lieu exotique, même si on est à Paris. D'où vous vient d'ailleurs ce sens, ce goût de la terre, de la nature hein?
Alors, d'où ça vient? D'abord, je crois qu'on l'a tous en nous, que tout le monde doit avoir ce sens de la nature et de la terre, parce qu'on fait partie de la nature et qu'on l'a complètement oublié. Mais moi, je sais que je sors de cette terre et que, voilà, c'est cette terre qui m'a fait et que j'en suis forcément proche. Je me pose même pas la question, est-ce que je suis proche de ma maman ou pas? Il y a une espèce de... La vie sur Terre est arrivée depuis quelques milliards d'années. Il y a un équilibre qui s'est fait et je suis un de ces produits de cet équilibre et j'en suis très conscient, en tout cas, de mon appartenance au vivant.
Votre nom est associé pour la plupart des gens à vos photographies de la Terre vue du ciel. Vous n'êtes bien sûr pas le seul à faire des photographies aériennes, mais vous êtes le plus connu de ces photographes. Et ça serait probablement réducteur de limiter votre travail à cette démarche. Pourtant, vous êtes une référence en ce domaine. Alors, quel est l'avantage d'une image prise du ciel ?
Vous savez, moi j'ai commencé à faire de la photographie aérienne quand j'étudiais les lions au Kenya. Donc c'était d'abord une façon pour moi de gagner ma vie, puisque j'emmenais les touristes en ballon voir les animaux. Et je regardais, chaque jour je travaillais sur le territoire des lions qu'on étudiait avec ma femme, et je regardais où étaient les lions, ce qui se passait. Et j'ai tout de suite compris qu'était l'importance de la photographie aérienne qui amenait une nouvelle perspective. Et c'est aussi certainement un recul sur ce qu'on voyait. On était loin. La perception était plus lointaine, peut-être plus intelligente. Et j'adore voler. J'étais pilote avion, donc j'ai continué à voler. C'était quelque chose de naturel pour moi de... Et puis voler, c'est un rêve, hein. Vous savez, dans le projet qu'on prépare là sur 6 milliards d'autres, qui va être au Grand Palais à partir du 15 janvier, on se fait un peu de pub.
On va revenir dessus.
Dans les rêves des gens, de ce qu'ils veulent faire quand ils étaient petits, une bonne grande partie, c'est je veux être pilote d'avion. Ce qui montre bien qu'on a tous envie de voler. C'est un rêve, les gens ont envie de voler, quand c'est quelque chose de très... dans les rêves d'enfant, voler, c'est important. Et moi, j'ai vraiment été au bout de mon rêve. Je crois que c'est important d'essayer de réaliser ses rêves dans sa vie. Moi, si on n'essaye pas, on ne sait pas qu'on peut y arriver. Et j'ai toujours eu envie de voir d'en haut. C'est vrai que c'est une espèce, quelque chose de très inscrit en moi, d'essayer de voir, de réfléchir d'en haut. Et c'est, voilà, donc d'où est venue la théorie.
Vous avez concilié deux passions, et en même temps, c'est une distance aussi par rapport au sujet.
Oui, c'est ça. C'est une zone. D'abord, on voit beaucoup de choses dans l'air. On voit bien quelle est l'importance aujourd'hui des photos satellites, une compréhension des cartes, de la géographie d'abord, et puis l'impact de l'homme sur la Terre se comprend très très bien vu du ciel. Quand vous survolez un pays, vous voyez s'il est riche, comment les gens se déplacent, ce qu'ils mangent. On voit beaucoup plus de choses sur une photographie aérienne qu'on le croit. D'ailleurs, c'est pour ça que dans beaucoup de pays, je ne peux pas voler parce qu'il y a des problèmes d'espionnage.
D'autorisation.
Les militaires s'en servent énormément.
Quel a été le déclic ? Il y a eu un photographe qui vous a marqué particulièrement.
Il y a un photographe suisse. Je ne sais pas si c'était un déclic. Je pense que j'aurais fait la
vous
même photo sans Gerster.
Même.
Mais c'est vrai qu'il y a un photographe qui, avant moi, a beaucoup fait de photos assez graphiques. Vu du ciel, c'est un photographe suisse.
Et il avait déjà un peu aussi les mêmes sujets d'intérêt. La Terre,
Terre de l'homme, je ne crois pas qu'il était... D'abord, je crois qu'il a 20 ans de plus que moi. Et je pense que l'environnement n'était à cette époque-là n'était pas la même chose. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus dans un il y a eu les conférences de Rio qui est arrivée, donc j'étais beaucoup plus sensibilisé. Et puis en même temps, je suis moi au départ un naturaliste, quoi. C'est ma passion, les animaux et la nature. Je pense qu'il était plus intéressé par l'archéologie que par la nature, quoi, une réflexion sur l'impact de l'homme.
Vous pourriez nous décrire ce qui se passe dans votre tête quand vous prenez une photo ? Est-ce que la photographie est causa mentale ?
D'abord, c'est impossible à expliquer. On cherche toujours à décrire ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un qui est en création. Vous savez, c'est un mélange de techniques, c'est-à-dire de ne pas rater ce qu'on fait, d'être bon, la vitesse, le diaph, la sensibilité, de parler au pilote, et puis une recherche très tendue sur de cadrer, quoi. Donc, on est dans un cadre, on travaille, on recherche. Puis en même temps, la photographie est tellement difficile qu'on ne peut pas se permettre de rater la photo. Donc on est tendu, on sait qu'on doit réussir cette photo, donc il y a un peu de stress, voilà. Ouais, un bon stress, un stress de gens qui aiment travailler, et j'adore ce que je fais, et j'en prends très souvent conscience quand je travaille, de la chance que j'ai de faire ce métier.
Dans La Grande Terre, un de vos ouvrages magnifiques, vous utilisez souvent le mot « image » pour le mot « photographie ». C'est un livre où vos photographies sont accompagnées de vos propres commentaires et vous revenez justement sur ces photographies. Il y a une différence ou c'est comme ça ?
Non, mais vous savez, moi je suis d'abord assez modeste sur la vision artistique d'un photographe. Dès qu'on appuie sur le bouton, on n'est pas un artiste. Aujourd'hui, il y a des photographes, des très grands photographes qui ne se considèrent pas comme des artistes, et puis il y a des photographes très moyens, je ne sais pas si on peut dire, donner un niveau de qualité, qui se prennent pour des artistes. Je crois qu'il faut savoir qu'il y a forcément une vision artistique dans ce qu'on fait, obligatoirement, mais en même temps, c'est un moyen mécanique de reproduire ce qu'on voit. On voit bien d'ailleurs quand la photographie est arrivée que la peinture est partie ailleurs. Aujourd'hui, image, photo, je me considère plus comme un témoin qu'un artiste sans doute.
Quelle place faites-vous aux hommes dans vos images ?
Fondamental. Je pense que l'homme est en permanence dans mes images puisque j'essaye de montrer l'impact de l'homme à travers mes images. Voilà.
L'image, c'est un mode de communication universel qui parle à tout le monde. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter sur la façon dont vos photographies sont perçues ailleurs qu'en Europe, en France au cours de vos reportages, on ne partage pas toujours la langue gens qu'on rencontre.
Nous, on expose beaucoup dans le monde entier. On a fait, 120 ou 130 expos. Gratuite dans la rue toujours, et on a exposé à Kaboul, on a exposé à Paris, Dakar. Donc je me rends bien compte que la photographie, d'abord ce qui est intéressant, c'est que le sens de la beauté, quelque chose qui est très propre à l'homme, en tout cas les animaux ne me le disent pas qu'ils connaissent la beauté. C'est vrai qu'un arc-en-ciel, une neige qui vient de tomber, un cheval qui court dans un champ, tout le monde comprend que c'est beau, c'est assez instinctif. Et on voit bien que la photo est un médium justement qui permet d'amener de l'émotion à travers la beauté. C'est quelque chose qu'on a tous en commun. Voilà, et j'ai souvent l'occasion de le voir dans les gens qui visitent mes expositions, c'est qu'on parle toujours de la même chose, quoi. C'est les mêmes photos qui touchent les gens partout, donc je vois bien quelque chose qui est
commun.
Et c'est drôle parce que l'autre jour, j'étais en Madagascar pour une émission de télé, et je demandais à un gardien d'une réserve pourquoi il était important de garder ces lémuriens, quelle était l'importance, et il m'a répondu très vite, parce que c'est beau et l'homme a besoin de beauté. J'adore cette réponse d'un malgache, voilà.
Vous avez créé il y a 20 ans l'agence Altitude. Vous êtes un homme d'action, d'engagement pour la photographie.
Vous savez, j'avais besoin de créer une petite agence qui restait petite d'ailleurs, modeste, qui pouvoir centraliser toutes les images aériennes que faisons les photographes dans le monde. C'était une façon de que les clients savent où trouver de la photographie aérienne. Voilà.
D'accord. Comment vous travaillez, vous? C'est pas ça qui était.
Comment je travaille, c'est important. C'est une grosse préparation d'assistants, d'endroits, de lieux. C'est compliqué de faire la photographie aérienne. La météo, trouver l'hélicoptère, trouver l'argent pour le faire, les autorisations. Et vous savez que c'est beaucoup de boulot. Voilà. Donc tout ça fait que c'est compliqué. C'est pas une photo simple. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui le font.
Est-ce que vous retouchez les photos? On vous pose la question.
On monte un peu les contrastes souvent, surtout quand il ne fait pas très beau, que c'est un peu grisounet. On travaille en RAW, je ne sais pas si les gens savent ce que ça veut dire, mais c'est une manière de travailler qui permet que ce qu'on photographie souvent sur l'écran ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a fait, parce qu'on travaille avec on prend toutes les informations à la fois, le brillant, le sombre, et alors la photo est assez terne toujours, et donc on est obligé un peu, pour retrouver ce qu'on a vu, de remonter un peu les contrastes, voilà, tout simplement. On ne retouche pas beaucoup, en fin de compte. Souvent, d'ailleurs, j'ai l'impression que ce que j'ai vu est beaucoup plus beau que les images. C'est souvent les journaux, d'ailleurs, ou les imprimeurs qui ont tendance à... Parce qu'en fin de compte, on donne une image, mais c'est avec l'impression, vous voyez, c'est quoi, c'est jamais exactement comme on l'a vu. Donc souvent, les gens ont tendance maintenant à trop monter les couleurs, je trouve, à trop, voilà, bon, comment on va les faire péter, comme on dit. Et souvent, je me bats un peu contre ça, oui.
Pourtant, vous avez révélé justement des couleurs vues du ciel, les couleurs de la Terre auxquelles on ne pensait pas, parce que
souvent,
pour la plupart des gens, c'est ça qui reste aussi de votre travail et qui permet d'ouvrir les yeux sur des choses que nous, auxquelles on n'a pas accès, quoi.
Mais ça fait très souvent les couleurs, d'ailleurs les couleurs de la Terre, toutes les couleurs du monde sont sur la Terre, on n'a rien inventé. Et souvent, je suis épaté moi-même par les couleurs que je vois.
Ouais.
C'est la force, ce que je vois, et le côté très puissant, quoi, très étonnant.
Hier, je regardais La Grande Terre, qui est vraiment un ouvrage qui, par ses dimensions tout simplement physiques, le livre est un livre très, très grand. Il y avait une très belle photographie avec... je suis tombée, je me suis demandé ce que c'était. J'étais un peu désorientée. Je voyais des couleurs orange, justement très flash, en me demandant si c'était une couleur naturelle, c'était de la terre. Puis au loin, dans l'angle, je voyais du sable, donc je me suis dit que j'étais sur une montagne... Évidemment, on se place à votre place, hein. On s'approprie tout. Et puis là, je vois un cercle de pierres et des roches noires très abruptes. Et c'est vrai que je me suis demandé ce que c'était. Et ça, c'est l'interrogation qui fait qu'après, on porte ses yeux sur la légende. Et là, on découvre que ce sont des tombeaux néolithiques en Algérie, un beau pays sur lequel vous avez aussi fait un album. Bon, vous en avez fait sur la nature, les animaux, mais aussi sur des pays, sur l'Algérie qui est aussi... c'est un pays qui vous tient à cœur particulièrement ?
Oui, j'adore l'Algérie. C'est dommage qu'il soit dirigé par des gens pas très malins, mais j'adore ce pays. Ce pays. Je trouve que c'est un pays sublime, complètement inconnu. Mmh. C'est un peu d'ailleurs la malédiction de ces pays qui ont du pétrole, qui ne veulent pas le tourisme. Et donc, c'est un pays qui est resté un peu enfermé avec... je ne dirais pas tout ce que je pense sur l'Algérie, mais j'adore ce pays, j'adore les gens là-bas. J'ai été très touché en Algérie par l'envie de France qu'ont les Algériens, formidable, qui regardent la télévision tous les jours, ils se connaissent tous les noms des ministres, le nom des séries télé, ça m'avait étonné. Et puis cette envie de France, quoi, d'amour de la France, de la langue française, parce qu'ils parlent tous français. Et puis en même temps, du blocage. Moi, je voudrais essayer de faire une grande émission de télévision sur l'Algérie, sur la réconciliation. Alors, rien que le mot réconciliation, ça les rend fous là-bas. Donc voilà, c'est une émission qu'on ne fera jamais. Mais c'est un pays en tout cas que... J'aimerais bien que les Français découvrent. Puis on a laissé beaucoup de sang là-bas, de douleur, de rancœur. Et je suis quand même quelqu'un qui est très qui se demande pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre ensemble.
Alors, vous photographiez des choses qui ne sont pas durables pour justement mettre en valeur.
Moi, si vous voulez, c'est la terre vue du ciel, c'est un métier, c'est un travail qui m'a transformé complètement. Transformé parce que, sans doute, je ne pensais pas que la terre était aussi belle, aussi intéressante à voir vue du ciel. Transformé parce que j'ai rencontré énormément de scientifiques qui sont tous des gens inquiets. Donc, forcément, ça, vous devenez un peu inquiet vous-même. Transformé parce que j'ai vu le travail incroyable des ONG sur le terrain. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle j'ai créé cette fondation, cette association Good
Good
Planet, qui
Planet.
devient une fondation dans les mois qui viennent. Et aussi transformé parce que j'ai vu qu'il y avait plus de gens qui vivaient. C'est-à-dire qu'on est 1 milliard, 300 millions à vivre comme on vit nous. Et qu'il y en a presque 2 milliards qui vivent dans une précarité absolue avec une seule ambition, simplement, c'est de nourrir leurs enfants. Donc, quelque part, ça m'a quand même beaucoup marqué de voir qu'on n'avait pas tous les mêmes ambitions et les mêmes besoins. Et surtout, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. On va vers un. On rentre dans le mur complètement. C'est étonnant parce que on sait très bien ce qui va arriver, mais on ne veut pas y croire. Donc, c'est le propre de l'homme. On va aller jusqu'au bout. Et c'est étonnant parce que les leçons du passé, qui sont les civilisations disparues, que ce soit les Mayas, l'île de Pâques, on peut vous en citer des dizaines, sont souvent justement des civilisations qui ont disparu pour un problème écologique. Et la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, on sait tout ça, on le connaît, on a une vision globale et on continue pareil. C'est un peu comme la crise financière, là. Tout le monde savait que ça allait arriver, mais on continue quand même. Il y a une espèce d'appât du gain, le confort, et ça arrive forcément, quoi. Ça ne pouvait pas faire autrement. C'est comme la crise du pétrole. On sait très bien qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole. Alors, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans même. Qu'est-ce que c'est que 30 ans pour quand on a 60 ans? C'est rien. Eh bien, on continue, on va chercher dans le pétrole dans le monde entier, plus loin, plus profond, au lieu de se dire, gardons-le, dépensons-en un petit peu moins. Voilà, on a une espèce de course en avant effrénée, et tout va tellement vite aujourd'hui, on fait tout vite, quoi. On fait tout. C'est la grosse différence dans ce siècle, c'est que on est passé de 1 à 7 milliards. C'est beaucoup en un siècle, et voilà, et donc toute une espèce d'accélération due à l'énergie qui va nous mettre dans le caca.
Alors, vous parlez
Pour le faire bref.
de ces 6 milliards d'hommes, justement, Good Planet lance des projets, des actions, justement. Quel est ce projet 6 milliards d'autres?
Alors, ces 6 milliards
Ça a
d'autres,
commencé d'ailleurs,
ça a commencé, oui, c'est un projet qui
ce
va être
projet
qui va se faire au
que
Grand
vous avez
Palais
lancé.
au 15 janvier, qui est une réflexion que j'ai eue à la rencontre justement des gens que j'ai au travail sur la terre du ciel, qui. J'ai voulu essayer d'avoir non seulement cette vision aérienne, vision très graphique de la Terre, belle, mais je parlais de l'impact de l'homme, donc j'avais envie d'avoir la voix de l'homme et peut-être aussi la voix du bon sens qu'on retrouve chez beaucoup de gens en fin de compte et qu'on a un peu tendance à oublier que le bon sens c'est quelque chose d'important. Et donc on a lancé un travail important de vidéos qu'on a fait dans le monde entier, où 6 réalisateurs sont partis pendant 3 ans poser les mêmes questions à tout le monde sur le sens de la vie. Et c'est 5 000 interviews d'une demi-heure, donc c'est un énorme travail qui a été traduit, dérushé, monté, et qui va être présenté au Grand Palais. Au Grand Palais, on va monter, je crois, 25 heures de montage, donc c'est pas énorme. Déjà 25 heures, c'est une expo, il faudra 3 jours, 4 jours pour la voir.
Ce sont
Et
des sous forme de
c'est
vidéos.
la vidéo, tout simplement. Il y a aussi un site internet qui va ouvrir à partir fin novembre, où tout le monde va pouvoir regarder les vidéos et mettre aussi la sienne. Et puis, les gens qui vont venir au Grand Palais pourront aussi être interviewés et répondre aux questions. Donc, c'est vraiment un travail de fond qui, je pense, va continuer, qui ne s'arrêtera pas.
Et alors, pour chaque personne, il y a les mêmes questions,
Il y a tous
le
les mêmes
même
questions.
regard, le même objectif,
La
la,
même
la même.
façon de tourner en hauteur, exactement les mêmes questions à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que la famille? Quel est l'événement le plus fort que vous avez eu dans votre vie? Et qu'est-ce que vous en avez appris? Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez à dire? Pourquoi on fait ce travail? C'est pour amener que les gens vous sortent là, ce qu'ils ont de mieux en eux. Et c'est aussi une façon, je crois que, d'abord, moi j'aime les gens. Fondamentalement, je m'aperçois que j'aime les gens. Souvent, les gens vieillissants sont un peu déçus dans tout ce monde de gens qui s'intéressent à la nature, donc un peu écolo, il y a un peu de déception. C'est vrai que les gens se battent depuis des années, que c'est pas passé grand-chose. Mais moi, plus ça va, plus j'aime les gens, et je pense que la solution, elle est là, et que l'écologie, nous apprend l'humanisme, à partager les choses, et que devant un chasseur, devant un industriel, devant un paysan, c'est par l'amour qu'on va le faire changer. C'est essayer de comprendre ce qu'il a à vous dire et de l'écouter qu'on essaiera de le faire réfléchir. Et ce travail sur 6 milliards d'autres, c'est vraiment une façon d'essayer de comprendre, bien sûr qu'on n'aura pas la réponse, malheureusement, pourquoi on n'arrive pas à vivre ensemble alors qu'on veut tous la même chose. La vision aérienne, parce que les frontières n'existent pas, parce que les religions, les tensions religieuses se voient peut-être moins, je me pose des questions, pourquoi il y a des millions de morts dans le nord de la France, ces énormes cimetières militaires, pourquoi ces gens sont morts alors qu'aujourd'hui les frontières n'existent plus et que l'allemand dans les sondages est le meilleur ami des Français. Pourquoi quand vous survolez Jérusalem, cet endroit qui est l'endroit sacré des trois plus grandes religions du monde, musulman, christianisme et judaïsme, pas une des plus grandes religions mais en tout cas importante, pourquoi cette ville est un symbole de guerre alors qu'elle devrait être un symbole de paix. C'est des choses qui m'étonnent et peut-être que l'homme n'est pas encore dans sa période de maturité. Voilà.
Alors Good Planet, c'est aussi mis à disposition sur Internet d'un site qui s'appelle Good Planet Info.
C'est dans Good Planet, vous avez plusieurs projets. Il y a un projet qui est un site internet qui va arriver bientôt, qui est un énorme projet encyclopédique sur un peu l'environnement dans le monde, dont chaque pays a ce qui s'y passe, avec des indices de déforestation, de pauvreté, d'éducation. Donc c'est un très gros travail. Il y a 3 personnes qui travaillent dessus depuis 2 ans et presque une centaine de bénévoles. Et ça va être en ligne bientôt. Il y a un projet avec la Ligue de l'enseignement, qui est une association française de profs qui est très importante, puisque ça a 3 millions de membres, c'est la plus grande association européenne. Et on travaille sur, entre autres...
C'est une association européenne.
Et on travaille avec eux sur de l'éducation auprès des enfants de l'environnement, mais surtout on offre des vacances à des enfants défavorisés. Cette année, on a invité 120 gosses à Port-Cros à découvrir la nature. Voilà, on a le projet surtout qui est Action Carbone, qu'on est devenus les premiers en France de compensation carbone, donc de réfléchir à ce qu'on dépense comme carbone. Et bien, on travaille sur un très gros projet de protection de 500 000 hectares, ce qui est énorme, qu'Air France finance avec le WWF à Madagascar. Donc Good Planet est appelé à devenir une fondation, j'espère, très active dans l'environnement et de... Ce concept que je trouve très simple, c'est d'essayer d'amener l'écologie au cœur de la conscience. Et quand vous l'avez au cœur de la conscience, tout est devenu beaucoup plus facile, il n'y a plus d'efforts à faire.
Peut-être pour synthétiser justement cet esprit, vous avez publié tout récemment là, le catalogue Good Planet, qui est 1000 façons de consommer de façon responsable, où on trouve absolument tous les domaines, de la maison aux vêtements, aux cosmétiques. C'est le catalogue Manu France revu et corrigé au regard de l'écologie, quoi.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Les industriels sont très en retard sur la prise de conscience qui est en train d'arriver en ce moment. Donc, on a voulu mettre dans un livre un peu tout ce qui se faisait, en sachant très bien que, de toute façon, ce qu'il faut d'abord, c'est essayer de consommer moins. Vivre mieux avec moins. Voilà, ça, c'est un peu quelque chose d'important. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on apprenne à moins consommer, à moins jeter. Il n'y aura pas d'autre solution. De toute façon, ça va arriver. Et donc, c'est un catalogue qui essaye de répertorier...
Les objets du quotidien, mais aussi de la construction, des transports consommés responsables.
Avec un site internet où les gens peuvent critiquer et donner leurs avis. On a un site qui s'appelle Good Planet Info, ce qui nous permet de
recueillir
ça marche
des commentaires en direct. C'est l'interactivité en tout, dans tous les sens. Donc on trouve des choses très étonnantes, ça va de la machine à laver, à l'alimentation, au préservatif, c'est
préservatif
tout ce qui nous
écolo.
Concerne, voilà. Tout ce qui nous concerne. Très prochainement, vous allez être élu sous la coupole, Yann Arthus Bertrand. Vous êtes le second photographe avec Lucien Clergue à être élu justement dans cette section de photographie qui a été créée en 2006. C'est un petit peu des quatre coins de la planète qui rentrent sous la coupole avec vous. Est-ce que vous avez peur de vous sentir à l'étroit ?
Non, moi, j'ai pas peur de ça. J'ai des choses qui me font beaucoup plus peur que l'académie. Mais j'ai pas peur. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai reculé pendant longtemps mon installation à l'académie parce que je sais pas si ce costume, je me sentais très à l'aise dans ce costume et si ce côté officiel, un peu académique de l'académie me faisait un peu peur, mais il faut y passer. Et en même temps, je pense que l'Académie des Beaux-Arts, d'abord, il y a des gens formidables qui sont... Moi, j'aime les artistes, je me sens bien avec eux, mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire beaucoup plus. Ils font déjà beaucoup, et ce qu'ils font n'est pas connu du tout. J'étais étonné de tout ce qu'ils faisaient déjà, de bourses, de l'aide donnée aux artistes. Et je voulais te dire que l'Académie des Beaux-Arts, c'est pas ringard. Qu'on attend encore d'autres personnes qui viennent, des grands peintres, des grands architectes. Je pense qu'on a besoin, je ne veux pas dire qu'il faut qu'il y en ait qui disparaissent pour donner leur place, mais il y a encore des places hein, qui sont là en ce moment. Et j'aimerais que les gens n'aient pas peur de venir à l'Académie, qu'au contraire, c'est pas moi qui vais révolutionner l'Académie, bien sûr, mais j'ai l'impression que enfin, quand tout ce mélange de gens très différents qui sont des grands artistes. Peut-être qu'entre un graveur, un cinéaste, un architecte, un photographe, c'est difficile en fin de compte de construire. C'est un peu, à notre avis, le défaut de l'Académie des Beaux-Arts, beaucoup d'ego. Et que je pense, ben, cet ego, il faut qu'on le positive pour essayer de faire plus de choses, d'être plus connu et d'avoir un rôle plus important dans le domaine artistique, en tout cas, puisque l'Académie a été créée pour ça.
Sans dévoiler beaucoup de choses, enfin, si ça ne vous dérange pas, vous pourriez nous décrire cette épée d'académicien qui sera...
Non.
Non ?
Non, parce que d'abord, c'est Stark qui l'a faite.
Oui.
Non, je n'en parlerai pas.
D'accord.
Elle est un peu particulière et je pense que...
Ça sera la surprise.
Voilà,
ça sera
la surprise.
Très bien.
Mais vous savez que normalement, je la connais pas, moi, donc théoriquement, voilà, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est Stark qui a eu l'idée et je ne voulais pas en faire. Enfin, au début, je voulais pas faire d'épée. Après, je voulais faire une petite épée en bois, avec une épée qu'on font les gosses avec une ficelle et deux morceaux de bois. Mais j'ai trouvé que c'était un peu se moquer un peu des autres épées. Et je n'étais pas très sympathique vis-à-vis des autres académiciens. Puis je suis assez copain avec Philippe Star qui m'a dit « Écoute, je te rappelle dans 10 minutes, j'ai une idée. » Et puis voilà, donc il m'a donné une idée que je trouve plutôt sympathique. Et c'est lui qui l'a réalisée qui va me la donner.
Oui, parce que ce sont des objets qui symbolisent aussi toute l'œuvre et puis l'histoire aussi, ou les symboles auxquels l'académicien est attaché. C'est un peu pour ça que je vous posais la question. Alors on saura ça peut-être le 15 octobre.
J'espère, oui, le 15 octobre, si je ne m'enfuis pas avant.
Merci Yann Arthus Bertrand pour cette interview avant votre installation sous la coupole.
Merci à vous.